Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de la crise de l'hôpital en France, les services d'urgence cristallisent difficultés comme dysfonctionnement du système. Tension, saturation, sous-effectifs peuvent perturber la qualité de la prise en charge des patients comme les conditions de travail des soignants. Les urgences en France, c'est la véritable porte d'entrée vers le soin pour traiter un traumatisme, une alerte cardiaque, une insuffisance respiratoire, mais aussi, et peut-être de plus en plus, une fièvre lorsque le généraliste affiche complet, passer un scanner quand il y a des semaines d'attente, car si la question du manque de personnel est réelle, les urgences reçoivent également une forte proportion de patients dont l'état de santé, dans les faits, ne relève pas de l'urgence, mais face au délai, se tourne vers ce service. Hausse de la fréquentation pour atteindre près de 21 millions de passages en 2022, surtension qui entraîne des modifications des conditions d'accueil, notamment avec l'accès régulé à certains horaires, voire la fermeture de certains services, crise plurielle des urgences, avec même dans certains cas la perte de chance qui est pointée du doigt régulièrement, donnant lieu à des avertissements en série, des rapports qui s'empilent et des promesses qui se succèdent. Crise donc à la fois chronique et aiguë, sur laquelle se sont penchés pas moins de 8 ministres de la Santé au cours des 5 dernières années. Et pour comprendre le fonctionnement comme les dysfonctionnements des urgences, ce qui marche, ce qui a évolué au gré des dernières crises et ce qui devrait encore changer, on vous donne la parole. Professeur Frédéric Adnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service du SAMU 75, SMUR, Hôpital Necker Enfants Malades, APHP. Dans le sud de la France, on va retrouver tout à l'heure votre consoeur, docteur Mathilde Vinter, chef du service des urgences de l'hôpital de Carpentras, c'est dans le Vaucluse. On va également donner la parole à Catherine Simonin, qui est membre de France Assos Santé, association de défense des patients et représentante de la Ligue nationale contre le cancer. Et puis également donner la parole à la secrétaire générale de l'association Les Transmetteurs, qui vient en renfort aux équipes des urgences, docteur Suzanne Tartière, médecin retraitée, qui a travaillé pendant près de 30 ans au SAMU de Paris et par la suite au SAMU social de Paris.
Priorité santé sur RFI.
Alors, des initiatives, des rapports, des dispositifs. Professeur Adnet, si l'on s'en tient formellement aujourd'hui à cette promesse qu'avait formulée le président Emmanuel Macron en avril 2023, promesse de désengorger les urgences fin 2024. Il y a bien sûr des différences en fonction des lieux, en fonction des hôpitaux, mais globalement, au moment où on parle, la crise des urgences, elle n'est pas résolue en France.
Non, et on en est loin, hein. On est en début 2025, et malheureusement, force est de constater que les urgences sont toujours aussi engorgées, voire pire, hein. On est en pleine période d'épidémie de grippe, même si on est proche du pic au niveau national, on a peut-être un petit peu dépassé le pic au niveau parisien, on est encore sur une fréquentation très très importante des urgences, avec un goulet d'étranglement qui fait que beaucoup de patients, malheureusement, stationnent aux urgences plus de 2, 4, 3, 4 heures en attente d'être hospitalisés ou en attente tout simplement d'être examinés.
On peut dire que si on regarde en arrière, 20 ans en arrière, la situation a vraiment empiré aujourd'hui.
Mais écoutez, elle a évolué comme a évolué le dispositif médical en France. C'est-à-dire que depuis 20 ans, peut-être même un peu plus, on a de moins en moins de médecins libéraux, de moins en moins de médecins de famille. Et puis, il y a une tradition française qui se perd petit à petit, qui est le médecin de famille qui vient voir la famille, justement, les enfants, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Cette disponibilité.
Donc, cette disponibilité que l'on avait, qui était une espèce d'exception française, là aussi, dans la médecine libérale. Tout ça, on l'a progressivement perdu, ce qui fait que les patients un peu désarçonnés se retournent vers l'hôpital, vers les urgences, pour avoir du soin, même si ça relève pas toujours d'une urgence vraie.
Alors, vous avez dit cette épidémie de grippe, on a priori dépassé le pic. Ça revient à la une de l'actualité régulièrement, professeur Adnet, l'été, la période des vacances aussi. Est-ce que finalement, ces pics de tension, ils ne peuvent pas s'anticiper ?
Si, ils pourraient s'anticiper, puisque c'est récurrent chaque année, hein, et c'est pas la première épisode d'épidémie de grippe que l'on subit. Simplement, notre système hospitalier n'a pas, en termes de capacité de lit, les moyens actuellement d'accueillir tous les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, ce qui génère ce qu'on appelle un problème d'aval, un stationnement des patients aux urgences, des patients qui sont réellement malades, qui ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de médicaments, ils sont dans des situations de fragilité. Je rappelle que la grippe intéresse principalement des sujets âgés, des sujets qui ont des pathologies chroniques et donc qui ont besoin d'un suivi médical très de proximité auquel répond l'hospitalisation. Donc on a un premier goulet d'étranglement qui est le goulet d'étranglement d'aval. Et un deuxième déterminant de ce goulet d'étranglement, c'est l'amont, c'est-à-dire de plus en plus de patients viennent aux urgences. Et donc, vous voyez que l'urgentiste se trouve un petit peu pris au piège entre des patients qu'il n'arrive pas à hospitaliser et de plus en plus de patients qui viennent en amont aux urgences.
Pour être très concret, sans faire de sensationnalisme pour autant, professeur Adnet, est-ce qu'aujourd'hui, en raison de cette crise, il y a dans les services d'urgence des hôpitaux français des morts évitables ? Dans le jargon, dans le vocabulaire hospitalier, on dit des morts inattendues.
Écoutez, les études internationales vont toutes dans le même sens. Il y a une grande étude française qui a été publiée il y a quelques années, enfin il y a deux ans, si je m'en souviens bien, a très bien montré une association très forte entre l'encombrement des urgences et la mortalité des patients. Et donc, effectivement, pour répondre clairement à votre question, mais c'est pas un fait nouveau, il y a une augmentation du risque de ce qu'on appelle la morbidité, donc des effets néfastes pour la santé, voire de la mortalité liée directement à l'encombrement des urgences. C'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les études, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce domaine et elles vont toutes dans le même sens.
Alors, crise des urgences multifactorielle, on le comprend bien, il n'y a pas une seule réponse comme ça, un claquement de doigts qui va faire tout changer. Avec également, vous disiez, ce goulot d'étranglement, beaucoup plus de monde qui arrive aux urgences, donc forcément, on comprend que cet embouteillage, il arrive à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là un problème d'éducation, d'information des populations sur les dispositifs de santé, où il y a vraiment, quand les personnes ont besoin d'une réponse médicale, une impossibilité à la trouver, cette réponse ?
Je pense qu'effectivement, le problème de cet encombrement d'amont, c'est-à-dire de cette multitude de patients qui viennent aux urgences pour des urgences ressenties, mais pas forcément des urgences réelles telles que le définissent les médecins, pourraient être évitées par, d'une part, effectivement, et vous avez raison, une meilleure information sur des dispositifs de santé qui pourraient exister, comme des maisons médicales, comme des centres de santé qui seraient ouverts à la fois le jour, mais aussi lors des horaires de permanence de soins, c'est-à-dire le week-end et la nuit, mais aussi, et c'est une solution qui est mise en œuvre, par un appel plus fréquent au SAMU, au centre 15, qui, et c'est leur premier rôle, a pour mission d'orienter le patient dans le bon parcours de soins qui correspondent à sa pathologie. Et je rappelle que SAS, donc c'est services d'accès aux soins, qui regroupe le SAMU et la permanence de soins, peut donner des conseils médicaux en attendant la visite d'un médecin.
On va vous retrouver, professeur Adnet, tout de suite après cette illustration, puisqu'on retrouve l'une de vos consœurs dans le sud de la France. Dans le Vaucluse, à l'hôpital de Carpentras, docteur Mathilde Vinter, bonjour.
Bonjour.
Je précise que cet entretien a été enregistré. Docteur Vinter, comment décrire la situation au moment où nous parlons dans votre service des urgences, ce service dont vous êtes la chef ?
La situation est toujours assez tendue au fait que nous n'avons pas assez de lits d'hospitalisation pour les patients qui rentrent dans les urgences. La situation a l'air de se calmer un peu. Je pense quand même qu'on a probablement passé le pic de la grippe. On a encore beaucoup de personnes âgées qui nécessitent de l'oxygène, ce pourquoi souvent on les hospitalise. Et puis après, ben, on a le tout venant du lundi en particulier, sur les gens qui ont eu des traumatismes le week-end et qui viennent le lundi, les patients qui revoient leur médecin traitant. Donc concrètement, ça veut dire que le matin, on essaie d'accueillir à peu près tous les gens qui se présentent, avec quand même la possibilité de réorienter les gens qui ne nécessitent pas un plateau technique. Et puis à partir de 13h30, on est un petit peu plus, entre guillemets, sévère, en disant, si ça ne nécessite pas d'être vu aux urgences, il faut être orienté ailleurs, en sachant évidemment que quelqu'un qui vient avec une douleur thoracique par ses propres moyens, lui, on va quand même évidemment le faire rentrer, lui faire les examens, électrocardiogrammes, prise de sang et tout ça. Et par ailleurs, des gens qui arrivent en ambulance ou en pompier alors qu'ils ne nécessitent pas forcément un plateau technique, eux, ils seront quand même réorientés.
Réorientés vers un médecin de ville, par exemple, ou vers une autre structure de santé ?
Tout à fait.
Parce qu'on l'a déjà dit depuis le début de cette émission, aux urgences arrive un certain nombre de cas qui ne relèvent pas de l'urgence. Docteur Mathilde Vinter, comment vous l'expliquez aussi chez vous à Carpentras ?
Nous, c'est assez multifactoriel. Il y a, je pense, une grosse demande de soins en général, de consommation de soins. Je pense qu'il y a quelques années de ça, on avait la grippe, on frissonnait 48 heures à la maison et puis on n'appelait pas le 15 et on ne demandait pas à être hospitalisé. Nous, dans notre région, on a un manque assez important de médecins généralistes qui sont très pris. Et puis nous, un vieillissement de la population aussi, qui fait qu'à un moment, on est un peu l'entonnoir, nous, aux urgences. Quand on n'a plus d'autres moyens, on se déplace chez nous.
L'entonnoir avec quels effectifs ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, chez vous à Carpentras, docteur Vinter, vous faites le plein ?
Nous, on fait le plus. Non, nous, on est en gros déficit médical. Moi, sur une structure comme la mienne, où je devrais avoir deux médecins seniors en 24 heures qui assurent les urgences et le SMUR, plus un médecin qui gérait l'UHCD, c'est-à-dire l'unité d'hospitalisation de courte durée de Silly chez moi, qui est un peu le post-urgence, et la filière qu'on appelle courte, c'est-à-dire un peu les flux debout, la consultation, la traumatologie, ça, ce serait aussi un médecin. Donc, il me faudrait, moi, quatre médecins seniors en journée et deux la nuit. Actuellement, on est un en 24 heures et quand on a la chance, on est deux. Et moi, de 12 équivalents temps plein pour faire tourner la structure, on est plutôt aux alentours de 4,5-5. Quoi.
Est-ce que ça se ressent sur l'atmosphère, notamment sur le lien entre soignants et patients ?
J'ai envie de dire pas forcément, parce que les médecins que j'ai chez moi, et on est tous très professionnels et les gens restent pris en charge rapidement quand c'est une urgence vitale, évidemment. Et puis, on essaye de faire comprendre à ceux qui ne nécessitent pas de plateau technique que ce n'est pas nous qui les verrons, mais quelqu'un d'autre. Dans la mesure du possible, les gens sont plutôt compréhensifs. Après, malheureusement, on a aussi, vous le savez, une montée un peu de la violence et tout est dû assez rapidement chez la population, on va dire, générale. Et nous, ça, on le ressent de plus en plus parce que ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait avant.
Il y a aussi une tendance lourde depuis des mois et des mois. Ce sont les prises en charge en santé mentale par les services d'urgence. Est-ce que aussi c'est quelque chose qui va saturer votre service à Carpentras, docteur Vinter ?
Oui, tout à fait. On est en plein dedans. D'autant plus que nous, on va avoir des gros remaniements au sein de l'hôpital puisque notre structure d'accueil justement des patients relevant en tout cas de pathologies psychiatriques, on avait une unité fermée, on avait des lits d'hospitalisation et tout ça va être rapatrié sur Avignon. Donc nous, ça va poser de gros soucis parce que de la structure de plusieurs dizaines de lits, on va se retrouver à plus rien. Et puis, il y a une tendance à la croissance de patients soit qui décompensent et puis de plus en plus de syndromes anxieux, ce qu'on appelle un moment dépressif ou tentative de suicide, et de plus en plus chez des jeunes. C'est une vraie tendance qu'on voit au sein des urgences. Donc là, c'est toute une paperasse à faire de certificats d'hospitalisation sous contrainte qui nécessitent aussi énormément de temps et puis aussi un mal-être dans nos équipes parce que souvent, c'est des patients qui sont agressifs, qui sont violents. Là, j'ai encore une aide-soignante qui s'est fait mordre ce week-end. Voilà, c'est pour nous un vrai problème.
Est-ce qu'entre vous, soignants, c'est quelque chose dont vous parlez, ces impressions sur le soin, sur votre façon de travailler, parfois même une quête de sens ou une perte de sens ?
Tout à fait, c'est exactement ça, ce sentiment d'utilité, on va dire. On s'est battu, entre guillemets, pour faire des études d'urgence. On a quand même 10 ans d'études derrière nous. On aime notre métier plus que tout, on ne changerait pour rien au monde. Par contre, clairement, il perd de son sens. Sur des gardes de 24 heures, c'est quand même assez. C'est rare maintenant de faire de la vraie urgence au sens vital. Donc c'est vrai qu'on se retrouve à voir énormément de gens qui nécessitent d'être vus par un médecin, mais pas forcément par un médecin urgentiste. Et en fait, cet effet entonnoir fait qu'on se retrouve à récupérer, ben, comme aujourd'hui, hein, des patients en fin de vie que la famille ne gère plus à domicile, des EHPAD qui, par manque de médecins coordinateurs, ont besoin d'une ordonnance d'antibiotiques. C'est des choses qu'on gère de plus en plus au quotidien, qui ne relèvent pas de l'urgence au sens vital de la chose et surtout au sens des compétences.
C'est essentiellement, on va dire, de la médecine générale. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui améliorer vos conditions de travail, comme les conditions d'accueil, si vous aviez la possibilité de faire des propositions? Peut-être d'ailleurs que vous en avez fait déjà, docteur Mathilde Vinter.
Nous, les propositions, c'est essayer de recentrer notre activité sur ce qui nécessite, en tout cas, nos compétences, mais surtout un plateau technique, parce que c'est ça la différence, en gros, entre ce qu'on fait ici et ce qu'un généraliste fait dans un cabinet. Nous, l'avantage qu'on a, entre guillemets, c'est d'avoir de la biologie et de l'imagerie assez facilement ici. Après, est-ce qu'il y a besoin d'un médecin urgentiste pour ça? Non, je ne pense pas. Mais ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Si nous, en fait, on répond pas à cette demande de soins, ben, personne d'autre ne le fait. Après nous, il y a la rue.
Ouais, parce que c'est bien ça le problème, dire ça relève pas de l'urgence, mais il faut qu'il y ait le généraliste derrière qui ouvre la porte de son cabinet.
Mais tout à fait. Mais je pense que ça passe aussi par une éducation vraiment thérapeutique, on va dire, des patients sur déjà qu'est-ce que c'est l'urgence, est-ce que ça nécessite d'être vu dans la journée ou pas, est-ce que ça peut attendre un peu. Ça, c'est une évolution, on va dire, malheureusement, de la société qui est de plus en plus exigeante, de plus en plus impatiente. Mais nous, on n'a ni l'effectif, ni la structure pour répondre à cette demande croissante.
Merci beaucoup, docteur Vinter. Très, très bonne journée à vous. Bon courage à toute l'équipe de votre hôpital à Carpentras, en particulier du service des urgences.
Merci à vous.
On vous retrouve, professeur Frédéric Adnet, sur ce volet. On a évoqué rapidement avec votre consoeur de Carpentras l'afflux de patients psy aux urgences, on va dire, générales. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur déterminant de tension?
Oui, tout à fait, parce que, comme dans beaucoup de spécialités, malheureusement, l'aval pêche pour ces patients qui ont une pathologie aiguë psychiatrique, qui arrive aux urgences, dont on fait le diagnostic, quelquefois l'évaluation psychiatrique, quand on a la chance d'avoir un psychiatre aux urgences, mais même en présence d'un psychiatre aux urgences, le problème est de l'hospitalisation de ces patients, avec de moins en moins de lits de psychiatrie, et lorsqu'il y a des hôpitaux spécialisés, bien souvent, il manque énormément de médecins psychiatres, ce qui fait qu'il y a des fermetures de lits et on se retrouve avec quelques patients, ça peut aller jusqu'à 5-6 patients psychiatriques, quelquefois agités. Et ça pose un problème, d'abord un problème vis-à-vis de ces patients qu'on est obligé de contentionner et de garder dans un service qui n'est pas adapté. Mais surtout, c'est des patients qui entraînent, si vous voulez, une instabilité de ce service qui augmente l'agressivité des autres patients par un phénomène de contagion. Lorsqu'on a un patient agité, bien souvent, ça déstabilise les autres patients qui deviennent eux-mêmes agressifs et agités. Et c'est un surcroît, si vous voulez, de travail pour l'équipe soignante et l'équipe médicale qui est à la fois nouveau et globalement, on n'a pas besoin de ça compte tenu de l'encombrement des urgences avec les patients qui présentent d'autres pathologies.
Sur la question précise du manque d'effectifs qui est pointé de longue date, professeur Frédéric Adnet, on l'a entendu encore dans ce témoignage, manque d'urgentistes, manque d'infirmières, y compris d'aides-soignants. Est-ce que c'est vraiment un point central?
Oui.
Si on voulait embaucher, est-ce que la main-d'œuvre est là, formée, prête à rejoindre les équipes d'urgence?
Non, on n'arrive pas à fournir assez d'urgentistes pour répondre aux besoins. On a, et ça, ce n'est pas spécialisé pour la médecine d'urgence, mais on manque d'infirmières dans les hôpitaux. On sait que beaucoup de fermetures de lits sont dues à un manque d'infirmières. C'est un phénomène national, voire européen, voire même mondial, en post-Covid, où on a une désertion de personnel soignant dans les hôpitaux, quelle que soit la spécialité. Et malheureusement, les urgences en font les frais comme les autres services. Donc, c'est un problème qu'il faut prendre dans sa globalité.
On a le constat. Est-ce qu'il y a eu les décisions prises pour inverser cette tendance en termes de formation, d'attractivité?
Eh bien, il y a eu plusieurs... vous le savez,
Ségur
de la santé, une revalorisation des salaires des infirmières qui étaient scandaleusement bas par rapport au salaire des infirmières de pays comparables dans la CE. Mais il n'y a pas que le salaire. Si vous voulez, par exemple, moi, je travaille dans un hôpital parisien, dans un quartier où les loyers sont extrêmement élevés. Et donc, ça impose à ces personnels soignants d'habiter loin de leur lieu de travail.
Des temps de trajet absolument rédhibitoires.
Avec des temps de trajet qui sont catastrophiques. Et donc, si vous voulez, toute cette problématique doit être abordée dans sa globalité. Conditions de travail, nombre d'infirmières par patient, conditions de logement, que les hôpitaux puissent préempter des logements à loyer modéré. Et puis, redonner du sens au travail des infirmiers, éviter ces infirmiers qui vont d'un service à l'autre. Ça, c'est un gros facteur de démobilisation et de découragement. Donc, si vous voulez, c'est pas sur une piste qu'on doit agir. Je crois qu'il faut prendre le problème dans sa globalité et essayer de rendre attractif l'hôpital qui a vraiment perdu en termes d'attractivité pour les personnels soignants, mais aussi, malheureusement, je le constate tous les jours, par les personnels médicaux.
Professeur Adnet, on va poursuivre notre échange prise en charge accueil. On va donner la parole à une représentante des patients précisément, voir aussi comment certains dispositifs de soutien s'organisent juste après au Moussangara avec Bifourou dans Priorité Santé. Priorité santé, on parle de la crise des urgences en France, saturation des services, attentes, tensions récurrentes. Est-ce qu'elles ont un impact sur la qualité des soins, l'organisation, le manque de personnel, les déserts médicaux? Toujours avec nous dans les studios de RFI, professeur Frédéric Cadenet, chef de service du SAMU 75 SMUR, hôpital Necker Enfants Malades APHP. Alors vous exercez aujourd'hui, les bureaux, les locaux, c'est à Necker dans Paris. Il y a quelques années, c'était à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Est-ce que la situation, la localisation des soins, c'est vraiment différent d'un service d'urgence à l'autre, ou est-ce que vous observez des tendances communes, région parisienne et au-delà ?
Écoutez, les services d'urgence fournissent des soins qui sont de qualité équivalente partout en France. Hein. Nous avons des recommandations nationales qui sont quelquefois issues de recommandations internationales. Donc, si vous voulez, la qualité des soins procurés par les médecins urgentistes en France, quelle que soit sa localisation, que ce soit dans un CHU, dans un centre hospitalier général, dans une clinique, dès lors que c'est un service d'urgence avec des médecins urgentistes diplômés, la qualité des soins est équivalente. Si vous voulez, il n'y a pas de perte de chance.
Ce qui va distinguer, c'est peut-être le tissu, le maillage médical autour du centre de soins et les effectifs disponibles pour donner ces soins.
Voilà, ça c'est un autre problème. Mais si vous voulez, la formation des médecins journalistes et des médecins urgentistes, c'est pas journalistes. La formation des médecins urgentistes et les protocoles de soins ne diffèrent pas. Et il faudra quand même rassurer la population, quand on va dans un service d'urgence et qu'on présente une urgence réelle, voire une urgence vitale, ils seront bien pris en charge. Par contre, et c'est une autre problématique, le fait que les urgences soient engorgées, le fait que le médecin n'ait plus assez de temps disponible pour examiner, faire un diagnostic, du fait de l'encombrement des urgences, effectivement, est associé à une perte de chance, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est liée, si vous voulez, d'un point de vue structurel, au fait que le service ne peut pas accueillir tous ses patients en même temps.
Alors, le cas des patients, précisément, on retrouve en ligne Catherine Simonin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de France Asso Santé, association de défense des patients et représentante de la Ligue nationale contre le cancer. Catherine Simonin, question des urgences, on imagine bien que c'est une préoccupation majeure pour les patients. Est-ce qu'il y a un sentiment, une vision commune où on va vraiment être dans des situations très différentes en fonction de la géographie comme des problèmes de santé quand on travaille comme ça pour une association représentative des patients ? Est-ce qu'il y a des cas qui vont être particulièrement sensible, ou est-ce qu'on va dire que c'est un problème assez globalisé ?
Alors le problème, il varie en fonction des territoires, et en cela, France Asso Santé, d'ailleurs comme la Ligue nationale contre le cancer, a des déclinaisons territoriales. Donc dans des déserts médicaux, et le professeur Adnet en a parlé, évidemment les médecins urgentistes sont formés pour exercer une médecine d'urgence et sont qualifiés avec des recommandations nationales. Ceci étant dit, quand nous nous trouvons dans un désert médical, et qu'en plus il y a une épidémie de grippe comme à l'heure actuelle, et que les urgences sont encombrés avec des problèmes de lits d'aval, c'est-à-dire des lits pour mettre les patients une fois qu'ils sortent des urgences, il y a des priorisations qui sont faites et parfois des plans blancs et des déprogrammations. Donc les patients qui étaient programmés pour des biopsies dans le cadre de l'oncologie ou des interventions programmées sont retardés, et en même temps, ça peut être aussi des délais d'attente pour rentrer dans un parcours de soins et des pertes de chance pour les autres patients qui ne seront pas reçus dans ces périodes très tendues. Et un urgentiste, et le professeur Adnet l'a bien spécifié, il est là pour recevoir un certain nombre de patients, et quand les urgences regorgent de patients, il y a de l'attente dans des couloirs, sur des brancards, et parfois pas de surveillance de ces patients qui décompensent tout seuls sans qu'il y ait de recours ni de sonnette pour appeler au secours.
Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, Catherine Simonin, on communique suffisamment sur ce sujet, ou est-ce que finalement on en parle assez peu, parce qu'on peut comprendre aussi il y a la détresse des familles quand ce genre de situation arrive, et puis ne pas non plus brosser un tableau catastrophiste, parce que c'est vrai aussi, les soignants font ce qu'ils peuvent.
Absolument, les soignants ne sont pas mis en cause dans ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des médecins, le numerus clausus a été levé, et c'est une très bonne chose, parce que la population augmente, le nombre de personnes en situation de maladie chronique également. Là, il y a un regard aussi peut-être à faire évoluer sur la prévention qui n'est pas forcément mise en œuvre aujourd'hui, puisque c'est vraiment, on est sur un tout curatif et très peu de prévention, et les associations en cela, comme la Ligue contre le cancer et d'autres associations, font de la prévention avec sur tous les territoires et portent la bonne parole pour justement avoir moins de personnes en situation de maladie chronique. Mais dans les déserts médicaux, quand vous avez 17% dans certains déserts médicaux, notamment mon département, qui n'ont plus de médecins généralistes, leur seul recours, ce sont les urgences. Et la médecine de ville n'assume plus le premier recours. Donc là, on a une situation aiguë, non lié au nombre de médecins qui augmente, mais au temps médical consacré aux patients par les nouveaux médecins qui il faut 2,3 médecins qui sortent de la faculté aujourd'hui pour remplacer un médecin généraliste qui part à la retraite. Donc c'est très tendu au niveau de l'accès aux soins.
Tout à l'heure vous disiez des retards par exemple dans des explorations ou dans des examens de santé. En termes de dysfonctionnement, est-ce qu'il y a d'autres exemples emblématiques à vos yeux sur ces pertes de chance que vous avez évoquées tout à l'heure?
Écoutez, quand on en est à avoir des lits de réanimation qui sont pleins, on sait très bien aujourd'hui que la population qui est à risque de grippe, et même ceux qui sont un peu plus jeunes aujourd'hui, hein, la grippe est mauvaise cette année et la vaccination protège des cas graves. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes non vaccinées et qui ne sont pas dans l'âge requis, c'est-à-dire les moins de 65 ans, ceux qui ont entre 55 et 65 ans, peuvent se retrouver sur un lit de réanimation avec une grippe. Donc là déjà, on a quelque chose qui devrait être pris comme mesure de prévention, c'est-à-dire de vacciner les soignants pour diminuer les risques 1 de transmission. C'est une diminution du risque, ce n'est pas un risque zéro, le risque zéro n'existant pas. Mais ensuite, c'est d'essayer de faire adhérer les patients, les usagers, les personnes immunodéprimées à la vaccination pour justement ne pas avoir ces cas gravissimes et ces pertes de chance pour les patients. Et ensuite, quand tous les lits de réanimation sont occupés, il est évident que les chirurgies de gros cancers ou les grosses chirurgies d'oncologie sont déprogrammées. Donc, automatiquement, le délai pour reprendre l'activité, il y a un décalage et automatiquement un retard de prise en charge et quelque part une perte de chance qui n'est pas d'ailleurs objectivée, mais qui pourrait faire l'objet de registres pour essayer de suivre ces personnes et voir ce qu'elles deviennent derrière, s'il y a une réalité sur les pertes de chance pour une non-prise en charge dans les temps impartis.
Donc on a bien compris cet effort de sensibilisation, notamment vers la vaccination. Catherine Simonin, est-ce que certaines personnes, certains patients, se tournent aussi vers les urgences tout simplement pour des raisons financières ?
Alors là, c'est possible. Aujourd'hui, nous avons un effet structurel de l'augmentation des complémentaires santé, ce qui fait que certains patients qui sont en affection de longue durée ou pas d'ailleurs, et qui sont retraités, indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, résilient leur complémentaire santé. Nous avons eu 10% d'augmentation en 2024, début 2024, pour un désengagement de l'assurance maladie. Nous avons eu encore 6% cette année parce qu'il y a des engagements, par exemple, sur la santé bucco-dentaire avec une prise en charge partagée entre complémentaire santé et assurance maladie, sauf que la prime à payer pour la cotisation de la complémentaire santé augmente et augmente avec le risque, donc avec l'âge, ce qui fait que les retraités en perte de pouvoir d'achat ne peuvent plus assumer cette dépense.
Donc cette considération du pouvoir d'achat, il faut aussi en tenir compte dans toute cette problématique. Vous faites des propositions concrètes, Catherine Simonin, avec votre association au pouvoir public ? J'imagine que oui.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire de relever déjà le seuil de la complémentaire santé solidaire pour que tout un chacun puisse avoir une complémentaire, voire aller plus loin. Alors, il était question de l'assurance maladie universelle, pourquoi pas ? Pour au moins une certaine partie de la population, et puis mettre des cotisations qui soient en fonction du revenu et pas en fonction du risque.
Professeur Frédéric Cadenet, dialogue avec les patients, des remontées d'expérience, il y a ça aussi dans vos services, justement, pour essayer de voir quels ajustements concrets, sans forcément une intervention extérieure, quels ajustements peuvent améliorer toute cette organisation ?
Ben, on a effectivement des dialogues avec les patients, mais le problème de la couverture sociale est quelque chose d'extrêmement important. Et vous savez que les urgences, c'est aussi un miroir grossissant des inégalités sociales, puisque nous sommes le lieu privilégié d'accueil des populations défavorisées, que ce soit des populations immigrées, des sans-papiers ou des patients qui sont en situation très précaire, comme les sans-domicile fixe. Donc on a toute cette problématique qui est une problématique quotidienne des urgences pour lequel on est habitué, et on a effectivement des services qui sont spécialisés en aval des urgences dans l'accueil de ce type de patients. Donc oui, on met en place, si vous voulez, des parcours de soins pour des patients qui seront, on va dire, très désavantagés en termes sociaux. C'est notre quotidien, c'est pas lié à l'encombrement ou aux épidémies, mais c'est effectivement un travail qu'on fait quotidiennement.
Alors, des initiatives aussi pour soulager les équipes, faire baisser les tensions. Une illustration tout de suite avec l'association Les Transmetteurs.
Priorité santé sur RFI.
Et vous en êtes la secrétaire générale, docteur Suzanne Tartière. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes médecin retraité, 30 ans au SAMU de Paris, 15 ans au SAMU social de Paris. Et aujourd'hui, cette association, hein, premier point, la vocation des transmetteurs, c'est quoi ?
Écoutez, l'association va fêter ses 20 ans cette année en 2025. Nous avons été créés par le docteur Xavier Emmanuelli juste après la canicule de 2003. Vous rappelez l'hécatombe, le nombre de décès de personnes âgées, et nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Notre objectif était de venir en aide aux pouvoirs publics et aux structures médico-sociales qui seraient en tension en cas de crise. Et c'est là où nous avons été traités. Actuellement, nous sommes une centaine, essentiellement des médecins, mais aussi des infirmières, mobilisables rapidement et prêts à intervenir.
Prêts à intervenir, je vous coupe, excusez-moi, docteur Suzanne Tartière. Quand vous intervenez, c'est quoi ? C'est dans les salles d'attente, au moment de l'accueil des patients aux urgences ?
Alors actuellement, nous intervenons dans trois services d'urgence parisiens, à l'hôpital Robert Debré en pédiatrie, et nous sommes là en période hivernale, en période de crise. Mm-hmm. Nous sommes aussi au sein de l'hôpital Georges Pompidou et de l'hôpital Bichat.
Alors vous dites-nous, qui sont précisément les membres de l'association ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Tartière, de leur parcours ?
Ce sont tous des retraités du monde médical, et qui souhaitent transmettre un peu toute l'expérience qu'ils ont pu acquérir au cours de leur parcours professionnel. Vous savez, cette génération, une fois qu'on est à la retraite, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer. Et c'était des métiers de passion et qui nous ont beaucoup occupés, et on a envie de continuer à les faire. Et l'association nous permet de continuer à agir, d'être efficace et de proposer notre compétence. Et puis nous avons quelque chose d'important, c'est le temps. Le temps que nous pouvons consacrer aux patients et que nos jeunes collègues n'ont plus.
Alors un grand sentiment d'utilité, on peut bien le comprendre. Et puis on peut imaginer aussi, docteur Tartière, une capacité à désamorcer certaines crises. Parce que des fois, quand on attend des heures, que ça crie, qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, puis qu'on a l'inquiétude liée à la maladie, même si le risque n'est pas forcément énorme. Mais malgré tout, il y a cette anxiété qui peut être présente. Il y a ce rôle, en fait, vous êtes des transmetteurs, mais vous êtes aussi en quelque sorte là pour désamorcer.
Tout à fait, nous savons repérer des personnes qui sont parfois silencieuses et qui ne vont pas bien, qui ne vont pas être repérées rapidement. Nous allons aussi vers ceux qui semblent très angoissés, qui s'agitent, et nous allons discuter avec eux. Le fait d'être médecin, c'est un plus. Nous avons la permission de regarder les dossiers médicaux et nous pouvons donc prendre le temps de répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs interrogations, et certains nous disent que quand nous sommes là, le service est beaucoup plus apaisé.
Plus apaisé, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes aussi, je ne vais pas aller vers le pathos, un supplément d'âme, mais quelque chose, une assistance psy en quelque sorte.
J'ose pas, en quelque sorte, oui, on peut
en
le dire.
En quelque sorte.
Oui.
Et il y a des échanges particuliers, il y a des moments particuliers qui vous viennent en tête justement sur ce soutien qui est fait, on va dire, assez informel.
Il a fallu du temps pour être accepté. Vous savez, il a fallu qu'on apprivoise un peu les services. Quand ils ont vu arriver toute cette telle blanche, ils nous ont demandé ce qu'on allait faire. On ne fait pas du tout de médecine, on ne prend pas la place d'eux. Mmh. Mais on est là pour venir un peu vraiment en renfort, en soutien. Et par exemple, un jeune médecin qui doit aller annoncer un décès à une famille, qui est très angoissé, eh bien, nous sommes là juste à ses côtés. Cette présence le rassure. Nous ne prenons pas sa place, nous sommes là. Et nous pouvons faire aussi tous ces petits gestes qui peuvent aider nos collègues soignants. Certains sont même étonnés, des fois, ils ont une toilette à faire, et bien, s'ils le veulent, on les accompagne. Mmh. On est là pour aider. Et c'est vrai que les transmetteurs qui assurent cette mission sont vraiment très heureux de pouvoir la faire.
On a parlé en première partie d'émission, docteur Tartière, d'une forme de méconnaissance de la part de certains patients, des structures existantes. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez? Certes, vous échangez avec ces patients qui sont dans la salle d'attente, mais vous dites au fond de vous, finalement, c'est pas ici qu'ils devraient se trouver.
Tout à fait. Je crois qu'il y a une grande méconnaissance, comme certains l'ont dit précédemment, des structures qui pourraient éviter de passer aux urgences, des structures des centres de santé, des maisons médicales de garde. Et là, je redis l'importance de la régulation médicale qui est mal connue. Et je crois qu'il faudra avoir des messages peut-être plus positifs de dire appeler le 15 vous permettra peut-être d'éviter d'aller aux urgences. Mmh. Et je crois que et puis si on est arrivé aux urgences, je rêverais d'un endroit, un petit espace dédié où on dise aux gens, les urgences ne sont pas le lieu idéal pour vous, mais attendez, asseyez-vous ici, on va prendre le temps de prendre pour vous un rendez-vous en rhumatologie ou dans une autre structure, et des médecins transmetteurs pourraient très bien assurer cette fonction avec un agent administratif et d'une certaine manière éviter que ces gens n'aillent aux urgences, mais qu'ils soient réorientés s'ils n'ont pas été en amont, qu'ils le soient au niveau des urgences, et peut prendre le temps de leur expliquer l'intérêt d'avoir une bonne consultation spécialisée dans une autre structure que les urgences.
Professeur Frédéric Cadenet, vous suivez l'échange avec Dr Tartière. Les transmetteurs, quel regard vous portez sur ce genre d'initiative ?
Écoutez, c'est une initiative excellente, hein, et on a absolument besoin, à l'époque actuelle, hein, vous avez bien compris, avec un manque de ressources soignantes et médicales, de ces transmetteurs qui viennent nous épauler, nous aider, et c'est à mon avis pas assez développé, ça devrait même être institutionnalisé, comme l'a dit le docteur Tartière, au niveau des urgences pour aider, moi j'aime pas le mot triage, mais aider sur une réorientation ou une orientation pour remettre le patient dans le bon parcours de soins qui correspondent à sa pathologie. Et aussi d'avoir un regard médical au niveau des SAMU, hein, pourquoi pas nous aider dans l'orientation, dans la prise de rendez-vous, dans le conseil médical. Ce sont des médecins qui sont très expérimentés par nature, qui sont volontaires, et donc on ne peut pas se passer de ce genre d'initiative. La réorientation aux urgences, hein, est un peu problématique. On a bien une infirmière d'orientation, mais qui a un regard de soignant, et c'est sûr que après la prise et l'élimination d'une urgence vitale dans l'espace lié au triage à l'infirmière d'accueil et d'orientation, d'avoir une aide supplémentaire, comme l'a évoqué le docteur Tartière, avec des médecins retraités, pour nous serait d'une aide considérable.
Catherine Simonin, ce soutien, l'appui des bénévoles, le soutien de la société civile, on va le dire aussi, hein, pour pallier les carences du système, pour vous c'est un bonus ou plutôt c'est un signe de fragilité ?
Alors, c'est les deux. Ouais. Donc, je pense que c'est un palliatif à une médecine qui est en souffrance, une médecine d'urgence. Et vous avez parlé de régulation. Mais les urgences dans plusieurs territoires sont régulées avec un service d'accès aux soins. Donc, en faisant le 15, eh bien, on a un régulateur qui essaie de grader la situation, c'est-à-dire de voir le degré de gravité de la situation et d'éviter de les envoyer aux services d'urgence, s'ils peuvent accéder à la médecine générale quand il y a des médecins de garde, hein, c'est toujours pareil, mais aussi d'avoir d'autres recours ou de pouvoir patienter en ayant un simple conseil. Et dans l'activité de soins en général et d'accompagnement en particulier, nous avons aussi tous les patients ressources, les patients partenaires, les patients médiateurs qui sont avec une expérience patient et qui accompagne aussi les autres patients pour essayer de leur donner un peu les orientations possibles, les biais à éviter pour leur permettre d'avoir une qualité de vie et des recours auxquels ils n'ont pas accès s'ils n'ont pas l'information, par exemple.
Alors, professeur Adnet, on arrive à la conclusion de notre émission avec tous les constats qu'on a fait depuis, avec les autres invités depuis le début de Priorité Santé. On a bien perçu beaucoup de facteurs pour cette crise des urgences. On attend quoi aujourd'hui ? On sait qu'il y a une crise des urgences, puis il y a une crise économique générale. On imagine qu'il n'y a pas des budgets énormes qui sont à disposition. Ce serait quoi la bonne idée, là, tout de suite, pour essayer d'améliorer la situation ?
Encore une fois, le problème est multifactoriel.
Est-ce que déjà ça peut se traiter du jour au lendemain ou c'est vraiment du long cours ?
D'abord, c'est du long cours.
C'est du long
Clairement,
cours.
La crise hospitalière, la crise de vocation des soignants et des médecins pour l'hôpital, c'est quelque chose de profond. Et augmenter l'attractivité de l'hôpital pour nos métiers, ça va pas être un coup de baguette magique. Donc, il faut prendre le problème à la base avec tous ces éléments. On n'est pas dans une période, et vous l'avez tous compris, budgétaire très favorable à la santé. Hein. On nous annonce partout qu'on a 3 000 milliards de déficit et qu'il faut faire des économies sur les dépenses publiques et on va pas toucher à l'école, on va pas toucher aux militaires, on va pas toucher à la police, il reste la santé, donc on s'attend quand même à un serrage de vis et c'est très malheureux parce que c'est quand même l'hôpital qui risque de payer un lourd tribut pour ces économies des dépenses publiques. Alors, ceci étant dit, il faut pas être complètement désespéré et il faut retrouver des termes d'attractivité qui sont dans un contexte, dans un périmètre très contraint de
budget.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être revoir les conditions de travail des soignants, des infirmières, peut-être revoir les conditions de logement, de revoir le parcours des infirmières dans les services, éviter de les déplacer, j'en ai déjà parlé. Peut-être revoir aussi la médecine générale et les missions de la médecine générale pour des patients qui effectivement ne présentent pas de pathologie d'urgence vraie. Peut-être aussi de l'information au grand public pour qu'ils appellent plus fréquemment le 15 afin qu'on puisse les remettre dans le bon parcours de soins. Si vous voyez, c'est un chantier multiple, c'est un chantier qui va être assez long et qui va être difficile compte tenu des contraintes budgétaires.
Merci beaucoup. Un grand merci à tous les trois, à vous deux, mesdames, toujours en ligne avec nous, pour votre disponibilité, d'avoir fait entendre votre vision des urgences dans l'émission. Et avant de nous dire tout à fait au revoir, la voix de Fabio Ramos, Umkalis Dina Terra sur RFI.
Viaja pa' los andan a un cualquier lugar. Ya me sentí por dentro a preguntar de viajar. Viaja pa' los andan a un cualquier lugar. Don longam guitar, longam guitar. Que dura mi viaje es melodía taguía. Don longam guitar, longam guitar. Nem tá sem fronteira e nem cá tem um instinto pra tirar. Mídia flama má, calma este fadiga. Tá mantendo a fé, Senhor Deus que tá guiando. Meu coração conta levar, e guia de luz que tá brilha. Melodia de ser minha alma tem banflar. Tô longa a guitarra, tô longa a guitarra. Que dura minha viagem, melodia tá guiando. Tô longa a guitarra, longa a guitarra. Que não tá sem fronteira e nem cá tem destino pra chegar. Mam te levo um casinha até três, quatro saudade, me lido mora beza. Mam te levo um casinha terra, três, quatro saudade, mam incerteza, não saber que eu sou teu meu, não saber que eu sou teu meu.
Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pou. Demain, nous allons parler de la goutte, une maladie inflammatoire qui peut entraîner des crises douloureuses, alimentation, sédentarité, génétique. Qu'est-ce qui peut favoriser la survenue de la goutte ? et comment la prendre en charge. On se donne rendez-vous bien sûr à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.